Je le crois. À la fin, il pourra, je pense, non seulement voir le soleil dans les eaux et partout où son image se réfléchit, mais le contempler en lui-même, à sa véritable place. Certainement. Après cela, se mettant à raisonner, il en viendra à conclure que c'est le soleil qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui est en quelque sorte le principe de tout ce que nos gens voyaient là-bas dans la caverne. Il est évident que c'est par tous ces degrés qu'il arrivera à cette conclusion, Socrate. Se rappelant alors sa première demeure et ce qu'on y appelait sagesse, et ses compagnons de captivité, ne se trouvera-t-il pas heureux de son changement et ne plaindra-t-il pas les autres? Tout à fait. Et s'il y avait là-bas des honneurs, des éloges, des récompenses publiques établies entre eux pour celui qui observe le mieux les ombres à leur passage, qui se rappelle le mieux en quel ordre elles ont coutume de précéder, de suivre ou de paraître ensemble, et qui, par là, est le plus habile à deviner leur apparition. Penses-tu que l'homme dont nous parlons fût encore bien jaloux de ces distinctions et qu'il portât envie à ceux qui sont les plus honorés et les plus puissants dans ce souterrain? Ou bien ne sera-t-il pas comme le héros d'Homère, et ne préférera-t-il pas mille fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à sa première illusion et de vivre comme il vivait? Je ne doute pas qu'il ne soit disposé à tout souffrir plutôt que de vivre de la sorte, Socrate. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et qu'il aille s'asseoir à son ancienne place. Dans ce passage subit, du grand jour à l'obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés? Oui, vraiment. Et si tandis que sa vue est encore confuse, et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demande un temps assez long, il lui faut donner son avis sur ses ombres, et entrer en dispute à ce sujet avec ses compagnons qui n'ont pas quitté leur chaîne. N'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens? Ne diront-ils pas que pour être monté là-haut, il a perdu la vue? Que ce n'est pas la peine d'essayer de sortir du lieu où ils sont, et que, si quelqu'un s'avise de vouloir les en tirer et les conduire en haut, il faut le saisir et le tuer, s'il est possible. Cela est fort probable. Voilà précisément, cher Glaucon, l'image de notre condition. L'antre-souterrain, c'est ce monde visible. Le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du soleil. Ce captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Voilà du moins quelle est ma pensée, puisque tu veux la savoir. Dieu sait si elle est vraie. Quant à moi, la chose me paraît telle que je vais dire. Aux dernières limites du monde intellectuel est l'idée du bien, qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Que dans le monde visible, elle produit la lumière et l'astre de qui elle vient directement. Que dans le monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence. Qu'il faut enfin avoir les yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse dans la vie privée ou publique. J'entre dans cette manière de voir autant qu'il m'appartient, Socrate. Qu'on soit donc aussi, et cesse de t'étonner, que ceux qui sont parvenus à cette hauteur dédaignent de prendre en main les affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à se fixer dans la région supérieure. Cela est bien naturel, s'il y a analogie entre ce dont nous parlons et l'image que nous avons tracée plus haut. Oui, rien de plus naturel. Qu'y a-t-il d'étonnant, dis-moi, qu'un homme, passant des contemplations divines aux misérables objets qui occupent les hommes, ait mauvaise grâce et paraisse ridicule lorsque, dans le premier trouble, et avant d'être familiarisé avec les ténèbres qui l'environnent, il est forcé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice, ou sur les images qui projettent ces ombres, et de s'escrimer contre la manière dont ces images sont prises par des hommes qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Oui, il est impossible de s'en étonner, Socrate. Un homme sensé fera réflexion que la vue peut être troublée de deux manières et par deux causes opposées, par le passage de la lumière à l'obscurité ou par celui de l'obscurité à la lumière. Et, comme il en est de même de la vue de l'âme, lorsqu'il verra une âme troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'ira pas en rire sans raison. Il examinera si c'est que, revenant d'un état plus lumineux, elle se trouve comme offusquée faute d'habitude, ou si, passant des ténèbres de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il la félicitera de l'embarras qu'elle éprouve et de ce commerce divin. Dans le second, il la plaindra. Ou bien, s'il veut rire à ses dépens, ses railleries seront moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. Oui, on ne peut parler plus raisonnablement. Or, si tout cela est vrai, il faut en conclure que la science ne s'apprend pas de la manière dont certaines gens le prétendent. Ils se vantent de pouvoir la faire entrer dans l'âme où elle n'est point, à peu près comme on donnerait la vue à des yeux aveugles. Tel est leur langage. Ce que nous avons dit suppose au contraire que chacun possède la faculté d'apprendre, un organe de la science, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner des ténèbres vers la lumière qu'avec le corps tout entier, l'organe de l'intelligence doit se tourner avec l'âme tout entière, de la vue de ce qui naît vers la contemplation de ce qui est et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être. Et cela, nous l'avons appelé le bien, n'est-ce pas ? Oui, Socrate.